Bonjour. Après une petite pause pour recharger les batteries, aujourd'hui un à bâton rompu qui sort de l'ordinaire. Le titre, Sherlock Holmes, détective et psychanalyste. Je suis parti d'un article qui fit date dans l'extrême proximité entre le personnage de détective Sherlock Holmes et l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Cet article, Un sublime amour de Sherlock Holmes, écrit par Roger Dadoun, est paru en 1983 dans un numéro de la revue Littérature consacré aux romans policiers. Cet article commence ainsi. Quasi contemporainement, Sherlock Holmes et Sigmund Freud accomplissent un geste semblable. Le premier s'injecte, le second absorbe de la cocaïne. Eh bien, cela m'a donné l'envie d'écrire une petite dramatique. Cher Simon, moteur! Bonjour, Éric Godichot, à bâton rompu sur Radio Grand Ciel. C'était un matin comme les autres matins, dans Baker Street, les voitures roulaient lentement à la recherche des premiers clients, les vendeurs de journaux claironnaient les titres. Et de braves Bobby regardaient cette animation avec le regard bienveillant de ceux qui observent le monde dans son apparente et paisible ordonnancement. « Mon cher Watson, » dit Sherlock Holmes, faisant retomber le rideau contre la fenêtre côté rue, « c'est bien calme en ce moment. » Puis se dirigea vers le râtelier à pipe. Le salon était éclairé par deux lampes à gaz aux deux globes d'opaline fixés sur le mur de chaque côté de la bibliothèque. Parmi tous les livres traitant principalement de crimes, de chimie, de physiologie, notre détective avait délicatement glissé un étui à violon. Les doigts de ses mains, très longues et soignées comme celles d'un lord, pianotaient au-dessus des pipes et soudain s'arrêta sur celle avec un tuyau recourbé, dite pipe de lecture, car la fumée est éloignée des yeux et du livre. Il sourit. C'était vraiment un rite de passage entre le quotidien un peu fade et gris et le monde infini et miroitant de l'esprit pur où se mêlait à travers les portes qui s'ouvraient une à une la fumée épaisse et âcre comme un petit brouillard domestique. Tandis que Holmes finissait de bourrer le foyer, Watson prit le journal, encore sain de son petit bracelet de papier, le déplia et commença à lire d'une voix monocorde, la plus neutre possible, les faits divers. La porte s'ouvrit brusquement. Madame Hudson tendit une carte. Un monsieur voulait rencontrer Monsieur Sherlock Holmes. Watson prit la carte et la passa à son ami, dont le visage disparaissait derrière un nuage vert amande. Il retourna la carte, préparant un de ses tours dont il avait le secret et qui venait d'une rencontre faite par Conan Doyle, un ami, lors de ses études de médecine. Le professeur John Bell était connu pour son art du diagnostic, son pouvoir infini de déduction, comme le détective Dupin inventé par Edgar Poe. Il était capable, à partir d'un détail du comportement, de la démarche ou d'un vêtement, de la callosité de la peau, de deviner l'origine et la profession de ces malades. De rechef, la porte tapissée d'un papier rose trembla et un homme, bien vêtu, sans affectation, restait sur le seuil. « Je vous invite à entrer, » dit Watson, indiquant un des confortables fauteuils de cuir caramel. L'homme, après s'être installé, un sourire bienveillant aux lèvres, les jambes croisées, allait parler lorsque Sherlock Holmes commença son petit tour de passe-passe dont il était friand. « J'ai vu, dit-il, lorsque vous êtes assis, que votre pantalon était usé à l'endroit où on s'assoit. Vous faites donc, monsieur, un métier où vous restez assis. La manière dont vous avez regardé la pièce avec une extrême concentration semble indiquer que vous menez dans l'exercice de votre profession un talent d'analyste tout à fait hors du commun. Et votre poche un peu déformée attestent que vous imitez l'argent en monnaie que vous donne chacun de vos patients. N'êtes-vous pas psychiatre ? L'homme ne revenait pas. Et afin de clore le débat, acquiesça. Oui, et pour être précis, psychanalyste. Watson expliqua en quelques mots qu'il s'agissait, en faisant parler des patients, de trouver la cause de leurs maux, en menant une sorte d'enquête sur leur vie en totalité. Alors Sherlock Holmes retourna enfin la carte et lut à haute voix. Monsieur Ernst John, fondateur de l'American Psychanalyst Association, psychanalyste à Dublin. Que me vaut cette visite, monsieur le psychanalyste ? Le professeur Freud m'a diligenté pour une affaire très délicate, répondit le collègue de Watson. J'espère que je peux compter sur votre discrétion. Vous le pouvez, lança Holmes. Eh bien voilà, ce cher Zygmunt est tout à fait dépité. Hormis la psychanalyse, archéologue dans l'âme, par sa méthode, il remonte jusqu'aux couches inférieures de la psyché et fait remonter à la surface des trésors insoupçonnés qui ainsi exhumés renseigneront sur l'histoire oubliée et recouverte du patient. Il possède une admirable collection de statues antiques. Or, il y a un mois, en rentrant d'un rendez-vous médical, il vit tout de suite qu'une des plus belles statues antiques avait disparu. Il s'agit, continua-t-il, d'une antiquité égyptienne très rare et valant une véritable fortune. Freud y tient comme la prunelle de ses yeux. Et encore, insista Holmes pour en savoir plus, ce que j'attends de vous, c'est ce qui s'est passé en détail. Sur une des vitrines du cabinet, continua Jones, sont posées comme les gardiens des enfers ces statues qui guident Freud tel Saint Christophe au seuil des enfers afin que ses analysants puissent être accompagnés dans le royaume des morts et revenir à la vie. Donc il y avait deux statues, Horus et Anubis. Si Horus était toujours là, Anubis manquait à l'appel. Le professeur a eu beau chercher, impossible de la retrouver. Or, quelque temps plus tôt, il avait eu en analyse un cas très difficile. C'est-à-dire, demanda Holmes. Pour faire court, un jeune homme de bonne famille souffrait d'une grave névrose obsessionnelle. Pris en grippe le professeur, si bien qu'un mois avant le vol, une séance était arrêtée sur des menaces de mort et la promesse proférée à haute voix de venir avec des complices et de faire disparaître tout ce capharnaüm. Comment ? Hurla le jeune homme avant de claquer la porte. Un homme si attaché aux objets, pourrait-il m'aimer, moi dont le père m'a abandonné aux griffes de ma mère lorsqu'il avait 3 ans. Et ce jeune homme a-t-il été retrouvé ? Non, mais Freud est certain que cela ne peut être lui, car rien d'autre n'a été volé. Pas d'effraction. Une seule statue, donc, celle du dieu à tête de chacal. Watson, qui jusque-là fumait sans un mot sa cigarette, nota « C'est en effet une affaire digne des plus grands détectives. » Holmes sourit et, déjà prêt pour le voyage, déclara « Eh bien, nous irons trouver le professeur Freud à Vienne et je lui parlerai d'un cauchemar que je fais depuis des années à l'occasion. » La porte du salon s'ouvrit. « Madame Hudson, préparez nos malles, nous partons pour Paris afin de prendre le Transorient Express en direction de Vienne. Prenez ma casquette à double visière. » Mon Macfarlane, il paraît qu'en hiver, les nuits sont fraîches à Vienne. Et vous, mon cher Watson, n'oubliez pas ma petite trousse de secours. » Il s'agissait de son nécessaire injection de cocaïne qu'il consommait lorsqu'une affaire lui résistait, afin d'être dans un état modifié de conscience. Cocaïne que Freud consomma aussi afin de combattre la dépression et qu'il remplaça plus tard par le cigare. « Regardez, Watson, la mer est calme. C'est Douvres !» cria Watson. De nouveau, la diligence traversait la campagne française. Champs, haies, chevaux, brouillard d'où émergeait le clocher des églises. La neige par aplats recouvrait les petites pièces verracines, l'or des blés, les brins, les luxuriances du tabac. Tout à coup, une autre voiture s'approcha d'eux, et le rideau noir qui recouvrait en partie la portière brutalement se rompit. Un éclair, le coup de feu partit. Holmes se jeta sur Watson et le plaqua sur le cuir brun de la portière. La voiture avait disparu. Quelque temps plus tard, on arrivait gare de l'Est. Nos deux hommes montèrent dans la voiture de tête de l'Orient Express, direction Vienne. Le wagon était d'un bleu azur relevé d'un liseron or. « Départ pour Vienne ! Départ pour Vienne !» criait le chef de gare. « Départ pour Vienne !» Holmes s'endormit. Watson lui avait préalablement injecté une dose de cocaïne. Le rêve qu'il faisait depuis des années se répéta à quelques détails près. Il était près d'un porche, dans le crépuscule du rêve. Franchi la petite arche surmontée d'un crâne, un grand cimetière semblait sortir de terre. Les tombes poussaient comme des champignons. Dans une deuxième partie, il se trouvait au pied d'une lettre géante, un « I » à plusieurs étages, surmonté d'une petite lune. Un brouillard très épais, enfin dans une troisième partie, estompait la scène et soudain, pour clôturer le rêve, il sauvait un enfant de la noyade comme il l'avait autrefois fait lorsqu'il avait 8 ans, en sauvant le petit voisin qui habitait la maison d'en face, à 2 pas de celle de ses parents. Il se sentait hardi. Et l'enfant qu'il tenait dans ses bras lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais avec un air de méchanceté insoutenable, ses yeux le fixaient. Alors, il se réveilla en sursaut. Thank you. La gare de Vienne, dans la nuit, était quasiment déserte. Malgré l'heure, mais Freud travaillait très tard, parfois jusqu'à 3 heures du matin, les deux amis descendaient une rue très escarpée en venant du Ring et de la Votivkirche. Arrivés à la partie la plus plane, en levant la tête, ils virent le numéro 19 qui semblait phosphéré à la lueur des becs de gaz. L'immeuble datait de la fin du 19e, assez massif. Sa façade était de style Renaissance aux étages inférieurs, alors que de nombreux détails néoclassiques ornaient les étages supérieurs. L'entrée, assez délabrée, menait à un large couloir. Ils avancèrent vers la droite. Un escalier de pierre s'élevait en courbe vers les étages. Les marches étaient larges, la balustrade formait des volutes. Ils sonnèrent à la porte de droite. Paula, la jeune domestique encore ensommeillée, les accueillit, bonnet dans les cheveux et seins d'un tablier. Elle prit les manteaux des visiteurs, puis les introduit dans la salle d'attente, au même mobilier qu'à Baker Street. Elle ouvrit la porte du cabinet. Le professeur Freud les attendait, assis à son bureau, corrigeant les épreuves d'un article. Il avait, lui, le conquistador de nouvelles terres, le révolutionnaire dans la conception de l'esprit humain, l'allure d'un bourgeois. Sa barbe élégamment taillée, sa chevelure épaisse et noire, disciplinée par une raie sur le côté gauche, ses vêtements sobres et bien coupés, attestaient d'une certaine aisance. Holmes, sans réfléchir, se dirigea vers le fauteuil de Freud, celui où il écoutait ses patients, surmonté de 2 fresques de Pompéi et d'un papyrus égyptien. Freud se mit à rire. « Vous êtes le premier à vous asseoir à ma place. »« Bonjour, monsieur Holmes, je suppose. Je vous attendais. Voulez-vous un café, un cigare, peut-être ?» Il cria « Anna, apporte-nous du café et une forêt noire. » Holmes, qui croisait les jambes et regardait avec avidité le décor de caverne d'Ali Baba, sourit longuement à son interlocuteur et fit les présentations. « Voici mon plus fidèle ami, le docteur Watson, comme vous. »« Ah, je ne suis plus docteur, » répliqua Freud. « Je suis devenu psychanalyste, quittant le domaine des sciences dures. Dans mes œuvres complètes, d'ailleurs, j'ai enlevé tous les travaux de neurologie, comme le rôle des synapses pour lier entre les neurones. » Watson s'asseya sur une chaise qui trônait entre le bureau et le divan recouvert de mirifiques tapis d'Orient. Il sortit un petit carnet à la couverture souple et prit des notes. Freud, jamais à court de blagues, se dirigea vers le lit de repos et s'y allongea, comme le faisait jour après jour, semaine après semaine, ses patients à la recherche d'un point où tout bascule. Holmes lui posa une question. « Dites-moi, où se trouvait la statue ?» Freud décrivit l'étagère avec un tel luxe de détails qu'il comprit qu'elle se trouvait au-dessus d'une petite vitrine. « Permettez-moi, » armé de sa loupe, Holmes scruta longuement l'endroit où se trouvait la statue d'Anubis. « Il n'y a pas de poussière, ce qui indique à coup sûr que la statue a été volée il y a peu de temps. » Holmes, se rasseyant, questionna. « Qu'avez-vous fait, monsieur le professeur, pendant les 2 semaines avant notre rencontre ? Ne réfléchissez pas, dites tout ce qui vous passe à l'esprit, sans vouloir absolument suivre un raisonnement logique. »« Eh bien, rien de spécial, » répondit Freud. « Ah si, j'ai subi il y a 15 jours une grave opération due à l'usage intensif que je fais du tabac. » La porte s'ouvrit. « Pose le café ici, Anna. » Tout le monde me prévient depuis des années des dangers qu'occasionne son usage intensif. Un danger de... Holmes interrompit le professeur. Et Anubis, et... Il laissa une suspension, le filon se faisait comme office d'interprétation. Freud brusquement se leva du divan et claironna. Mort, Anubis, mort, opération de la mâchoire, usage effréné du cigare. Homme sexe la main. Je crois que la chose est claire. Où mettez-vous vos cigares, Herr Professeur ? Freud se dirigea vers son bureau. Ah, voilà que je me rappelle, dit-il. La veille de l'opération, j'ai pris Anubis dans mes mains et je me suis dit que peut-être je ne survivrais pas à l'opération. Alors, reprit Holmes, vous êtes allé prendre un dernier cigare et sans vous en rendre compte, avez mis à la place du cigare la fameuse statue. Vous êtes trop fort, interrompit Freud. Il prit la boîte en acajou surmontée d'un bouton de nacre et délicatement souleva le couvercle qui avait fait écran à la substitution et sur un lit de cigares retrouva la petite statue d'Anubis qui semblait sourire d'un air moqueur. Watson ne put s'empêcher, après avoir écrit une dernière phrase et rangé son carnet dans la poche de sa veste de tweed, d'applaudir des deux mains. Eh bien, prenons le café, maître. Holmes prit la parole. Maintenant que j'ai résolu votre affaire, Herr Professeur, puis-je vous raconter le rêve que je fais depuis des années ? Freud se leva, fit un geste pour inviter le célèbre détective, devenu le temps d'une rencontre psychanalyste, à lui raconter ce rêve et les circonstances, à s'allongeant à son tour sur les divans. Pour commencer, dit Holmes, je dois vous avouer une chose. J'ai une propension étrange à m'ennuyer. Le monde qui nous entoure ne m'intéresse guère. S'il ne présente pas à mon esprit l'aspect mystérieux d'énigmes et de mystères à résoudre, coûte que coûte, grâce à la force de mon raisonnement. C'est pourquoi, je l'avoue, je fais un usage exagéré d'une drogue, la cocaïne. Le célèbre professeur eut un sourire complice. Oui, je vous écoute. « Continuez, murmura Freud à son oreille. Précisément, continua Holmes, en s'allongeant un peu plus sur le divan, où il était plus facile d'être assis, Je vous le raconte. Chers auditeurs, nous en ferons un petit résumé, puisque de votre côté, vous l'avez déjà entendu un peu plus tôt dans notre récit. Je suis d'abord dans un cimetière, commença Holmes. Ensuite, au pied d'un i géant. Enfin, plusieurs scènes anciennes et liées aux rêves semblent indiquer que je suis, mot inusité qui vient prendre la place de courageux, je sauve un enfant de la noyade, je suis hardi. C'est un mot que je n'emploie jamais, insista Holmes. Cet enfant me ressemble, mais avec un air méchant. Associé, dit Freud. Cela fait plusieurs mois, reprit Holmes, que je n'avais pas fait ce cauchemar, mais pendant le voyage, quelqu'un a voulu me tuer sur la route de Paris. Et alors, monsieur Holmes, avez-vous un ennemi ?
Oui, c'est le roi du crime, l'empereur du vice.
Eh bien, souligna Freud, le rêve est structuré comme un huis, un rébus en trois parties. L'inconscient, structuré comme un langage.
Trois parties, dit Holmes ?
Oui, d'abord, mort. Ensuite, i. Et enfin, hardi, mot que vous avez employé de nombreuses fois. Cela fait mort et hardi, ajouta Freud.
Mort et hardi,
pensa Holmes.
Bon, mort et hardi, cria Holmes, se levant brusquement.
C'était lui, encore une fois. C'est lui qui a voulu me tuer près de Senlis.
Ah !
Freud prit un air plus docte. N'est-il pas, selon les écrits de votre Watson, un autre vous-même, mais tout acquis à la jouissance du négatif, un double obscur, une partie cachée, mise en sourdine ?
Parfaitement, reprit Holmes.
Voilà une affaire parfaitement menée. Et serrant la main du professeur Freud avec beaucoup de chaleur, je rentrerai à Londres avec une autre manière d'écouter mes clients. Et moi ? Dit Freud, tandis que Watson sortait son carnet pour immortaliser le dialogue entre ces deux génies, un sourire aux lèvres, « Je mènerai maintenant l'enquête autour de chaque cas avec votre rigueur, monsieur Holmes, malgré une différence, ironisa Freud.
« Laquelle ?» demanda Holmes,
puis prenant un cigare malgré l'interdit qui lui avait été répété désespérément, Freud conclut, « Chez moi, la victime et le criminel ne font qu'un. » Merci à Simon pour sa mise en ondes radiophonique. Eh bien, j'étais heureux de vous retrouver après un petit confinement d'ordre personnel. Et je vous donne rendez-vous pour la dernière émission de la saison d'Abaton Rompu, consacrée à l'or. D'ici là, amusez-vous bien et profitez des beaux jours.